Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine, j'accueille Marie Papillon sur In Power. Comédienne, entrepreneur, réalisatrice mais aussi autrice, Marie Papillon a clairement pris le pouvoir de sa vie en décidant qu'elle pouvait en avoir plusieurs. Marie est toujours partie du principe que la meilleure formation, c'était l'expérience et ne s'est jamais mise de barrière concernant ce qu'elle pouvait accomplir. Après une première boîte créée dans la production et l'événementiel, Marie décide de se consacrer à l'acting, à l'humour et à ses propres vidéos. C'est ce qui est assez rafraîchissant aussi, je trouve, dans cette conversation avec Marie. Elle nous partage ce qui lui donne envie de commencer un projet, mais aussi d'en arrêter un. Passer des réseaux sociaux au petit écran dans la série Marie et les choses, de vidéos engagées à la rédaction d'une bande dessinée pédagogique, Marie nous partage dans cet épisode ce qui l'a aidée à se construire et à rester fidèle à elle-même dans sa réussite. Si c'est la première fois que vous écoutez In Power, bienvenue, je reçois dans ce podcast chaque semaine des invités inspirés et inspirants qui ont pris le pouvoir de leur vie. Et si ce n'est pas la première fois que vous écoutez In Power, c'est peut-être que vous appréciez ce podcast, alors si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir gratuitement les prochains épisodes. C'est aussi en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous pouvez témoigner votre soutien si vous appréciez In Power, et si vous êtes extra, quelques lignes me partageant pourquoi vous appréciez l'écouter. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Marie Papillon. Bonjour Marie.
Bonjour Louise.
Bienvenue sur In Power. Je suis très contente qu'on arrive enfin à faire cette interview parce que je pense que tu es la personne que j'ai contactée il y a le plus longtemps. Enfin, le délai entre le moment où je t'ai contactée et le moment où on arrive à faire le podcast, c'est sûrement le plus long. Je pense que ça fait 1 an et demi.
Oui, tu veux dire que je t'ai fait galérer, c'est ça ?
En d'autres termes, on peut le dire après, non. C'est pas grave, c'est excusable, on va parler de toutes les raisons qui ont fait que tu n'étais pas dispo.
C'est que je pense que à chaque fois je n'étais pas dispo et que du coup, il n'y a pas de hasard et que là, le destin a fait que c'était ce moment-là.
Ouais, tu crois au destin ? On peut commencer tout de suite avec des sujets hyper métaphysiques.
Ah,
tu crois ? Ouais.
Ah oui.
Et même dans les moments difficiles, tu arrives à te dire, parce que moi dans les moments difficiles, je suis là genre, mais non, en fait, le destin peut pas m'infliger ça, tu vois.
Ah si, moi je me dis qu'il y a toujours une raison.
Ok.
Ouais.
Et ça t'aide, ça doit pas mal t'aider à dépasser les moments difficiles.
Ah bah, tout est sur le dos du destin. Hein,
c'est une bonne excuse. Ouais.
Même quand il arrive des trucs à mes potes, destin.
Ouais. Je peux rien y faire.
Ça, tu peux rien faire, ça, je suis désolée, comme ça. La route est tracée, tu vois.
Mais du coup, quand il t'est arrivé, merde, est-ce que tu dis, bon, c'est le destin, ou t'es en mode, bon, ok, il y a le destin, et puis il y a ce que je peux en faire, et donc, voilà, trouvons une solution.
Bah, oui, je me dis ça, mais je me dis surtout, voilà, si j'ai eu cet obstacle dans ma vie ou s'il m'est arrivé telle chose, c'est qu'il y a forcément une raison, ça va forcément m'endurcir, ça va peut-être... tu vois, m'apprendre des choses. Ouais, je suis un peu... Ouais, je suis chiante, j'essaie de voir le positif tout le temps. C'est assez...
C'est un bon côté chiant à voir, je pense. Ouais. Il y a pire comme côté chiant. Bon, quand même, j'adore parfois rentrer dedans, mais pour les personnes qui te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ?
Je m'appelle Marie Papillon. T'as vu, j'ai
pas eu un peu...
Ouais, parce que je me suis dit, est-ce que je me présente en espagnol ? Bon, j'ai peut-être trop le faire.
Tu peux, hein ? T'es espagnol, pas du tout ?
J'ai de la famille espagnole.
Ok.
Mais on reviendra là-dessus, sinon tu vas me demander de parler en espagnol et ça va être très gênant.
Je ne comprends pas l'espagnol, donc.
Je peux te dire n'importe quoi.
Ouais.
Bueno, la cucaracha de la tasca.
Pas mal.
Ça veut dire je m'appelle Marie Papillon.
Ah oui, c'est,
ouais.
C'est vrai ?
Ouais, ouais.
C'est pas du mytho parce qu'en plus j'ai aucun second degré, donc on est mal barré.
Non, donc je m'appelle Marie Papillon. Je suis comédienne, auteure et réalisatrice. Voilà.
C'est pas mal déjà.
Et entrepreneuse.
Ouais. Voilà.
Donc j'ai eu 2 vies. On va dire. Là, j'entame ma 2e vie. J'aime bien l'appeler comme ça.
Ouais. Donc ouais. Tu sens un moment de rupture. Tu peux peut-être nous dire qu'est-ce qui a fait que t'es arrivée dans ta première vie. Et après, on arrivera à comment la deuxième a commencé.
La première vie, c'est vrai que moi, j'avais pas forcément envie d'entreprendre ou de monter des boîtes. Et quand je suis arrivée à Paris. Bon, en vrai, je suis arrivée à Paris parce que j'ai découvert la Gay Pride et le Marais. Mmh. Et à l'époque, c'est vrai que je n'étais pas encore assumée en tant que femme homosexuelle. Donc, première fois que je suis allée à la Gay Pride, je me suis dit, ok, peu importe le taf que je vais faire, c'est ici que je vais vivre.
Ouais.
Voilà.
T'as vécu où juste en grandissant ?
J'étais au Havre.
D'accord.
Voilà. Mais du coup, voilà, bon, à l'époque, dans ce genre de ville... qui sont quand même des grosses villes, t'étais beaucoup moins averti sur le sujet, quoi.
Ouais.
Ça reste quand même des petits villages, quoi.
Ouais.
Et du coup, je suis arrivée à Paris. Donc déjà, je suis arrivée dans cette vie où, avant de trouver ce que je voulais faire professionnellement, il fallait que je trouve qui j'étais vraiment et comment m'assumer pour bien entamer ma vie derrière et mes relations avec les gens et dans le côté pro et dans le côté perso, quoi. Et puis ensuite, très vite... J'ai rencontré, moi j'aime bien dire à chaque fois que c'est des rencontres humaines qui m'ont amené là où je suis. C'est que des rencontres humaines, c'est-à-dire que je n'ai jamais calculé ou je me suis jamais dit tiens je vais faire ça, c'est à chaque fois je rencontre des gens, désolé hein, je reviens au destin tu vois, mais à chaque fois je rencontre des gens et voilà, et ouais. c'est surtout des femmes. Et donc là j'ai une copine qui me dit oh j'aimerais bien monter... un food truck, tu sais, c'est quand il y avait toute la folie des food trucks, là. Il y en avait trois à Paris, c'était un truc de malade.
Ouais. J'adore, moi, les food trucks.
Ouais, bah, il y en a encore un peu.
Il y en a encore un peu, mais c'est plus dans les festivals. Ouais, voilà.
Et donc, du coup, elle a monté un des premiers food trucks et elle m'a dit, tu veux pas qu'on s'associe? Je lui ai dit, bah ouais, ce serait bien de faire de l'événementiel. Et du coup, on a commencé à monter une société événementielle. Et puis après, elle était déjà associée aussi avec son copain. Et puis après, on était cinq dans la boîte. Et puis ensuite, j'ai rencontré une autre femme qui s'appelle Virginie Godard, qui a fondé le Food Market avec moi. Pareil, qui est venue me voir, qui m'a dit, voilà, j'ai su que tu faisais de l'événementiel dans la restauration. Ça te dit pas, on monte un Food Market. Elle est venue avec son petit schéma. Elle m'a dit, alors là, c'est les petits stands. Ça, c'est ça. Voilà, comment on peut le faire? Et moi, vu que je m'étais vachement formée à tout ce qui était ELEC, tu vois, kilowatts, je branchais des câbles, je faisais des démontages, des trucs. Voilà, j'avais plein de prestataires et tout, j'étais pote avec tous les régisseurs, enfin voilà. Du coup, j'ai apporté ce côté opérationnel de production. Comment tu peux faire un food market dans Paris sur des emplacements de marché qui ne sont pas habitués et qui ne sont pas pensés pour avoir des formats de ce type-là avec autant de personnes, quoi. Donc, c'était hyper intéressant. Et pareil, on s'est lancé là-dedans. Et avec les deux, en vrai, à chaque fois, c'était ça te dit de faire ça. Ouais, on y va. Et en fait, c'est des meufs qui n'ont pas eu peur d'entreprendre. Mmh. Tu vois, c'était en 2013, donc ça fait quand même déjà un petit moment. Il y a plein de choses qui ont évolué. Mais à l'époque, être une meuf qui bossait dans l'événementiel et qui entreprenait, c'était...
C'était assez rare, ouais.
Ouais, c'était hyper rare, quoi. Et donc voilà, et puis après j'ai monté ma boîte de production, et puis après j'ai récupéré les ateliers de mon grand-père qui était ébéniste, et j'en ai fait un studio photo avec une autre amie à moi, Jane Ferreira, qui elle était productrice aussi dans la photo. Donc à chaque fois en gros j'essaie de créer des synergies si tu veux, avec les gens que je rencontre, et me dire bah voilà, qu'est-ce que je peux faire de ce lieu, qu'est-ce que je peux créer. Moi, j'aime bien à chaque fois changer de... Je peux pas rester en place, quoi. Donc, je montais des trucs et je me disais « Ah bah tiens, on peut peut-être faire ça. » Et faire fonctionner toutes mes sociétés ensemble aussi, tu vois.
Est-ce que tu t'es pas sentie un peu débordée en menant tous ces projets de front? Parce que, bon, est-ce que au final, après peut-être déléguais une certaine partie de ce que tu faisais à d'autres personnes pour te mettre un peu dans le nouveau projet à fond? Parce que c'est un peu compliqué, en fait, au bout d'un moment, d'être sur plein de plans.
Bien sûr, mais j'ai pas tout fait en même temps. Et puis surtout, encore une fois, j'étais entourée, j'étais pas toute seule. C'est pas moi qui ai tout monté. Chacun avait sa carte à jouer dans la société et sa place. Et du coup, en fait, à chaque fois, si tu veux, tu formes les gens. Et après, quand ils sont formés, et c'est là où c'est l'étape qui est un peu cool, c'est que tu montes quelque chose. Au début, c'est toi qui es à fond dedans, tu vois, qui fout vraiment, moi j'aime bien cette expression, qui apprend sur le tas, qui fout les mains dans la merde. Et tu vois, moi j'en ai fait plein des burgers avec Valentine, j'avais jamais fait de burger de ma vie. Elle m'a dit, si tu veux comprendre ce que c'est le food truck et pouvoir le vendre à des gens et vendre une prestation et monter un projet autour de ça, faut que tu
me suis
retrouvée à faire des frites. Ouais. Et d'ailleurs, ma grand-mère me disait très souvent, alors, t'as toujours ton kebab? Je disais, bon, je vais la laisser croire que j'ai un kebab, j'aime bien stylé.
Mais c'est vrai que tu touches justement un sujet dont je voulais aborder, parce que tu nous dis que tu as commencé à faire un food truck, mais avant ça, en fait, c'était quoi? T'as fait des études dans la food? Pas du tout.
Avant ça, j'ai fait, je te dis, moi je suis venue à Paris, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire à Paris pour rester à Paris, faire des études à Paris? Et puis je savais pas trop ce que je veux faire, et je trouve qu'à 18 ans, c'est compliqué de savoir ce que tu veux faire directement. Ouais. Et moi, ça m'angoissait, je me disais, bon, je vais faire une fac, donc j'ai fait une fac de langue. Ce qui était très sympa, qui me sert du coup à mon espagnol.
Bah, n'est-ce pas, nous faire des super démos.
Voilà. Mais j'avais un grand-père qui était entrepreneur aussi, et qui lui, pareil, avait ce truc-là qui m'a un peu transmis, je pense. Et du coup, j'ai toujours quand même eu ce côté créer des choses. Et moi, je me rappelle que lui disait, bah, on m'a demandé ça du jour au lendemain, je l'ai fait. Enfin, tu vois, il avait ce côté très débrouillard, très quand tu veux, tu peux, et c'est pas grave si tu fais des échecs. Et c'est vrai que quand tu montes une boîte, tu te. confronte à des trucs de compta, les papiers, les machins, les impôts, moi j'étais là, pétrifiée, hein, j'étais là, ne laissez ces papiers, ouais. N'ouvrez surtout pas cette enveloppe. Ouais, enfin, tu vois, ouais. Après, quand tu le mets dedans et que t'es bien entouré, on t'explique, on te dit, bah là, tu vois, tu fais pas assez de marge, là, tu as perdu de l'argent, là, tel salarié, ça coûte tant, là, il faut que. Et puis, t'as aussi beaucoup d'humains, t'as la formation, en vrai, quand tu montes une boîte, l'humain, c'est essentiel, quoi. Ouais. Prendre le temps de parler aux gens, d'avoir des salariés, d'avoir conscience, en fait, que tu vas travailler, faire travailler des gens, tu vois, c'est aussi un sacré délire, quoi. Ouais. Mais heureusement, moi, j'étais pas toute seule. Parce que dans chacune de mes sociétés, j'étais avec des femmes qui étaient fortes, qui étaient là, qui avaient le même engouement. Et surtout, à chaque fois qu'on a eu des échecs ou des mésaventures, on était tout le temps ensemble, quoi. Souvent, on se disait, c'est quand même dur de devoir faire des échecs pour apprendre.
C'est vrai.
Et te relever et ouais. tout. On n'a pas lâché, quoi.
Ça, c'est une vraie force, la résilience. Mm. En fait, je pense qu'il y a un peu de cas de figure, quoi. Il y a savoir, en fait, percevoir les échecs parfois comme juste des obstacles à dépasser qui te rendent plus fort. Mais il y a aussi, je pense, savoir parfois réaliser que t'es peut-être pas au bon endroit. Toi, tu crois au destin, tu vois.
Bien
Parce
sûr.
Que je pense que essuyer échec sur échec, je pense que, tu sais, parfois t'as un échec de trop qui peut genre te shut down. Et ça, je trouve que c'est assez difficile parfois à repérer. Si on arrive à s'écouter, à écouter son corps, son intuition, c'est plus
tout
simple.
Fait.
Si on n'arrive pas, bon, bah, faut attendre le moment peut-être où là, on se dit, en fait, il y a trop de. Tu vois, je vois ça un peu comme un ratio. À partir du moment où tu commences à perdre trop d'énergie dans un projet et que t'en ressors pas assez, c'est peut-être qu'il est temps de changer d'aventure et accepter
Bien
le fait
sûr.
Que voilà, c'était une étape vers peut-être autre chose de plus épanouissant.
Et surtout, je pense que tu peux pas tout faire en même temps. En fait, à force de vouloir faire trop de choses, tu fais les choses mal. Tu vois ce que je veux dire? Il vaut mieux se concentrer sur quelque chose et pour ensuite bien le faire et récupérer du savoir-faire. Moi, ce que je trouvais génial dans tous les trucs dans lesquels je me suis lancée, encore une fois, c'est que je connaissais rien. Et c'est tu apprends, en fait.
Ouais.
Moi, c'est ce truc d'apprendre. Enfin, le studio photo, je ne faisais pas de photos.
Ouais.
Donc, c'est des assistants photos qui m'ont. J'avais juste cet espace qui était un lieu incroyable où je me disais, je vais en faire quelque chose, je veux que ça reste dans ma famille, je veux qu'il y avait l'énergie de mon grand-père, tout ça, c'était un lieu artistique aussi parce qu'il créait, donc je me disais, il faut que j'en fasse un endroit, mais il faut quand même que j'ai des bases, donc j'ai fait des formations. Tu vois, où j'ai appris, alors que c'est pas moi qui vais faire des photos, mais tu vois, c'est donc.
Si tu travailles avec des photographes, c'est toujours bien de savoir ce qu'ils vont faire, quoi.
Et maintenant, du coup, t'as une régisseuse, mais si elle me parle de quelque chose, je sais de quoi elle me parle, donc je pourrais vite l'aider ou. Maintenant je gère plus ces sociétés puisque du coup on va venir à mon autre mon autre vie mais je n'ai plus de part dans le réfectoire et dans le food market parce que aussi je pense que si tu as un associé, moi être un associé dormant ça ne m'intéresse pas, ça ne me stimule pas, donc je pourrais très bien j'ai vendu mes parts à des amis ou des gens qui vraiment envie de s'investir dans la société, la faire vivre et l'élever. Et surtout, j'ai gardé mes amis, quoi. Tu vois,
c'est vrai.
C'est
génial.
Qui est chouette.
Tu mets le doigt sur un sujet important, en effet. Parfois, je pense, quand on s'embarque dans une aventure, on a le sentiment que c'est pour la vie presque. Tu vois, parfois, on a créé quelque chose, on a du mal à le laisser de côté. Alors qu'en fait, c'est juste, comme tu dis, c'est une étape de ta vie.
Ouais.
Et c'est OK, quoi, de même si on a aidé à le créer, que ça a été hyper stimulant, de dire, là, c'est plus ce dont j'ai forcément envie besoin. Ou c'est. J'ai plus forcément quelque chose à apporter et on peut se tourner vers d'autres aventures. Et le deuxième truc intéressant, je trouve, que tu abordes là en parlant de cette expérience, c'est que je trouve que tu reviens à une vision de l'entrepreneuriat un peu historique et qui a, je trouve, été pas mal remplacée par une vision très startup nation, très entrepreneuriale, go big or go home, où tu vois, au final, c'est le terme entrepreneur, à la base, limite, c'était mal vu il y a 50 ans.
Ah bah oui.
Parce que tu vois, c'était le mec qui n'a pas fait d'études et qui n'a pas réussi à avoir, qui a pas réussi à avoir un poste dans une grosse boîte et qui est un peu glorifié. Alors qu'en fait, il y a beaucoup d'histoires, tu vois, de mecs aujourd'hui de 50-60 ans qui, genre, moi, j'en connais, le père d'une amie, tu vois, qui n'a pas le bac et qu'aujourd'hui, à la tête d'une énorme boîte.
Oui.
Et OK, tout le monde n'avait pas des parcours comme ça. D'ailleurs, ce n'est pas le but de dire ça, mais c'est juste de dire, en fait, les gars, l'entrepreneuriat, c'est juste genre, comme toi, tu as eu un peu, avec des amis, on a une idée, on ne sait pas le faire, mais on y croit. et on va se donner les moyens de y arriver, quoi. Et ça peut être, en plus, dans des projets qui ne demandent pas forcément d'investissement de malade
voilà,
au début, tu vois, dans la food.
Des boîtes dans la tech, quoi.
Ouais, voilà. Et c'est un peu ça aujourd'hui, en effet, quand tu veux peut-être révolutionner l'intelligence artificielle, et il en faut sûrement, hein. Là, oui, il faut que tu lèves des fonds, faut que... Mais du coup, je trouve que parfois, l'entrepreneuriat peut faire peur, parce qu'on a l'impression que c'est soit tu lèves 10 millions et tu peux te dire entrepreneur, soit, en fait, t'es pas légitime. Alors que franchement, je connais des restaurateurs qui ont ces cheesers. Ils font des super... c'est pas plein de chez toi. Ouais, des grilled cheese. Qui ont commencé. Ils ont tout... je trouve ça cool. Dans leur restaurant, il y a toutes les étapes de leur évolution. Bah, tu vois, ils n'avaient pas de thunes. Ils ont commencé par un food truck. Quand ils ont eu assez de thunes pour avoir un petit local, ils ont eu un petit local. Et maintenant, ils ont plusieurs restaurants et tout.
Oui, oui.
Et je trouve ça cool, voilà, de cette vision d'entrepreneuriat. En fait, j'ai une envie, j'ai une passion. On y croit. Ça va pas être facile. Mais on peut grandir comme ça aussi, quoi.
Non, mais c'est complètement ça.
Et ça, c'était ta première vie, du coup ?
Ouais, ça, c'était ma première vie. Et puis ensuite... alors bon, avant le confinement, j'étais quand même active sur les réseaux, mais j'étais plus sur le côté entrepreneuriat. Donc, c'est-à-dire qu'au début, quand j'ai... Pardon, je vais boire parce que je vais m'étouffer. j'ai la coqueluche.
Quand on commence à tousser trop, c'est mauvais signe.
J'ai découvert Instagram et je me suis dit, ouais, c'est quand même chouette, je vais pouvoir montrer. Ou j'ai commencé à faire des stories, je me suis dit, bah, je vais montrer c'est quoi le quotidien d'une meuf de. À l'époque, je sais plus quel âge j'avais, mais j'avais moins de 30 ans. Et qui bosse dans l'événementiel et qui se retrouve à faire des démontages à 4 du mat et qui sait pas où brancher quel câble et voilà machin. Et en fait, je faisais beaucoup de blagues et je me suis rendu compte que les gens étaient plus intéressés par mes blagues que ma vie. Tu vois ? Dans l'entrepreneuriat.
Il faut savoir le reconnaître.
Non, et du coup, j'ai été plus active sur Insta et j'ai commencé à me faire remarquer un peu où les gens m'ont dit « Mais tu veux pas faire de la comédie, tu veux pas faire du cinéma, tu veux pas faire du stand-up, machin. » J'étais là « Non, non, moi c'est pour rire, moi j'ai un vrai métier. » tu sais, encore ce truc où... Mais parce que moi j'avais grandi un peu dans cette génération de « Il faut des diplômes, il faut ce... Pff, artiste.
Mmh. »
Tu vas aller à l'école comme tout le monde. Ouais, voilà, tu vois. Et donc, moi, j'avais un peu ce truc de dire oh, « Non, non, je peux pas m'autoriser, quoi. Non, non, je vais monter des bois, je me suis fait chier. Tu vois,
ça, c'est sérieux,
j'ai un héritage, c'est sérieux, je crée de l'emploi, je fais des trucs, je suis respectée maintenant parce que les gens ont vu, les gens, mes amis, les gens avec qui je travaille, même ma famille, tu vois. » C'est con, mais au début, ils me regardaient un peu de loin, ils disaient « Qu'est-ce qu'il fout ? » Mmh. Ah oui, donc tu fais ça. Puis c'était des métiers, de l'événementiel, en vrai, tu comprenais pas trop,
ça
quoi.
Ça veut tout et rien dire.
Et du coup, là, j'étais arrivée à un moment de ma vie où j'étais là, bah ouais, les gars, j'ai fait ça. Donc, j'avais une certaine fierté que je voulais conserver aussi, tu vois, préserver.
De légitimité, quoi.
Voilà,
ouais.
De légitimité. Et puis, il y a le confinement. Et là, pendant le confinement, je ne travaillais... Enfin, toutes les boîtes étaient à l'arrêt.
Surtout dans l'événementiel.
Voilà. Et moi, j'arrivais aussi à un moment donné où je commençais à faire de plus en plus de projets artistiques, où je disais quand même oui, tu vois. Mais tout en gardant quand même l'essentiel de mon activité d'entrepreneuse. Et puis, j'ai commencé à faire pas mal de vidéos, quoi. Donc là, j'ai fait plein de vidéos. Artistiquement, en fait, je me suis dit, bon, bah, en fait, je vais peut-être faire ça. Ça, c'est cool, ça me fait rire. Oh, bah, j'aime bien ça, en fait, c'est sympa d'écrire ça, tu vois. J'ai commencé à faire tout ça. Et on m'a proposé d'écrire une série. Donc j'ai écrit ma série, tu sais, avec les objets, parce qu'en fait, tous les gens ont commencé à avoir des objets chez eux, vu qu'ils étaient enfermés chez eux, donc en fait, ils commençaient à m'envoyer leurs vidéos en mode « Ah putain, j'ai vu ça, oh regarde ma prise !» Donc je recevais des milliards d'objets tous les jours, tu vois. Et j'ai écrit la série, et puis j'ai signé en agence, juste après le confinement. Pendant le confinement, j'ai pris plein d'abonnés, enfin il y a plein de gens aussi qui suivaient du coup... mes aventures.
Ouais.
Et qui me... D'ailleurs, j'en croise parfois qui me disent « Oh là là, t'as sauvé mon confinement. » Enfin, moi, j'ai pas la prétention de dire ça. Mais du coup, ils me disent « Putain, je t'ai suivi pendant le confinement. » Enfin, c'est vraiment un truc qui revient souvent.
Ouais,
quoi.
Ouais, ouais.
Quand j'étais un peu la...
celle qui a porté du baume au cœur.
Voilà, enfin, il y en a eu beaucoup. Hein. Tu vois, il y a eu Lison aussi, il y a eu Laurent, il y a eu toi. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a plein de femmes pendant le confinement qui se sont révélées. Je trouve ça super.
Ouais.
Et du coup... du coup, tout ça pour dire que je sors du confinement et en fait, bah là, ça a été très vite. J'ai signé en agence, j'ai fait un premier casting, j'ai été dans un long métrage, puis après j'ai été dans une série, j'ai fait un autre casting et en fait, après, on m'a proposé d'écrire Marinette, et puis on m'a proposé des collabs, et puis on m'a proposé de prendre la parole sur des, enfin, tu vois.
Ouais.
Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais faire maintenant.
Ouais.
Donc
Et t'avais jamais eu ce désir avant d'être comédienne ? T'y avais pensé un peu quand même ou...
Non, alors j'avais pas eu le désir d'être comédienne, mais je sais que quand j'étais petite, c'était quelque chose qui m'animait vachement, quoi.
Ouais.
qui m'animait vachement. Je faisais rire. Voilà, je passais mon temps à faire des spectacles, je passais mon temps à me mettre en scène, à me filmer. Enfin, tu vois, quand j'y repense, tu vois, même quand j'en parle à ma famille, ils me disent, mais bien évidemment, en fait, ouais. T'attendais quoi, quoi, tu vois ?
Ouais, ça fait sens.
Ouais, ça fait sens.
Et t'as pas eu ce fameux syndrome de l'imposteur qu'on a parfois, tu vois, quand on se lance dans un domaine, tu vois, où bah, pareil, t'as zéro formation en théâtre, tu vois peut-être des gens qui t'impressionnent un peu. Est-ce que là aussi, tu t'es formée ou tu t'es juste dit, bon, practice.
Pour ma vie d'entrepreneuse, je l'ai eu, ça, parce que du coup, j'avais... Tu vois, quand je disais, tu fais quoi ? J'étais là, gérante. J'ai quoi ? Gérante. Gérante, oui, oui, je gère des choses. Enfin, tu vois, ah, ok, donc t'as une boîte, quoi.
T'es chef d'entreprise.
Oui, voilà, ouais. Chef d'entreprise, quoi. Le chef d'entreprise.
Le mot, genre, wow.
J'imaginais comme ça un monsieur avec son costume. Désolé, chef d'entreprise, c'est tout.
Bah ouais, t'imagines rarement chef de ZFE.
J'ai imaginé quelqu'un qui disait, je suis chef d'entreprise, tu vois, avec son gros bureau, tout ça, les grosses baies vitrées, machin. Donc je me disais, non, je suis pas chef d'entreprise. Voilà, et après, j'ai mis très longtemps à dire que j'étais comédienne et auteur.
Ouais. Et aujourd'hui, t'arrives à le dire ?
Bah, oui, puisque j'ai fait des projets, mais en fait, c'est assez récent, tu vois, ça fait un an et demi. Donc,
c'est vrai,
j'ai eu beaucoup de. Et souvent, on me disait, mais tu as le droit de le dire. Et donc, ils me disaient, mais t'es comédienne ? J'étais là, ouais. Oui. Et puis après, bah oui, effectivement, quand tu tournes dans des longs métrages, dans des séries et que tu fais. Oui, tu peux le dire parce que t'as fait tes preuves entre guillemets, tu vois. Mais moi, comme je savais pas ce que je valais, à part sur Instagram, qui n'a rien à voir avec tourner un film où, enfin, tu peux être très drôle sur Instagram, mais pas du tout en stand-up, par exemple. Tu vois, moi, on me propose beaucoup de faire des stand-up, mais
c'est un autre exercice,
c'est hyper. Déjà, faut savoir de quoi parler, faut tenir, c'est un truc aussi d'introspection, je suppose, tu vois. Ouais. Moi, je sais pas parce que je fais des. Moi, chaque fois, je le dis, c'est pas parce que je fais des blagues sur Insta que je vais tenir un spectacle où je vais avoir une dramaturgie incroyable. Enfin, tu vois, ou mes petites que là, je commence à écrire sur des projets. Je n'ai pas tous les codes. J'apprends aussi avec d'autres auteurs, du coup, qui m'apprennent. Enfin, tu vois, je suis encore dans ce truc d'apprentissage perpétuel et comme jouer aussi, tu vois. Moi, je découvre un peu tout ça. Donc, ouais, j'ai eu beaucoup de mal à dire que j'étais comédienne, même quand je le dis encore. Mais je le fais.
Ouais.
Et,
c'est comme ça qu'on fait bouger les choses et qu'on accepte. De reconnaître en effet notre légitimité qui est plus difficile à accepter pour les femmes, disons-le, c'est un fait.
Oui.
Donc tu participeras, j'espère, des personnes qui nous écoutent puissent à leur tour revendiquer ce qu'elles sont. Il y a une question que j'aime bien poser et je pense que là, vu ce que tu nous dis, c'est le moment d'en parler, c'est comment est-ce que tu progresses au quotidien, tu vois, est-ce que tu en as conscience déjà et est-ce que tu as cette démarche de dire...
T'as vu ma tête, hein, j'ai fait...
Que vais-je dire ? T'as le droit de
tu
dire.
Tu sais,
aussi,
j'avais le ballon de paille. Non, j'avais la chanson de l'ascenseur dans la tête. Qu'est-ce que je vais répondre ? Moi, je progresse.
Je pense que ne serait-ce que par les différentes activités que t'as, tu vois, est-ce que t'as un conscient effort de dire je veux m'améliorer dans ce domaine ? J'adore, mais vraiment, c'est un podcast ASMR.
Ouais, désolé, ASMR. J'ai ma pastille, mais c'est bon, je l'ai plus, vous inquiétez.
Tu l'as plus, elle est finie.
Elle est finie.
Mais voilà, est-ce que tu vois, il y en a, ça va être de se faire coacher, il y en a d'autres, ça va être de lire pas mal sur des sujets, d'autres, ça va être d'apprendre par d'autres personnes qui ont plus d'expérience peut-être qu'eux, mais notamment quand je pense que tu découvres un domaine, il y a peut-être cette volonté de progresser, de s'améliorer, que ce soit... pour être légitime ou que ce soit personnellement pour avoir l'impression d'être au niveau, on va dire.
Oui, non, oui, c'est sûr qu'il y a une part de moi où justement il y a ce côté apprentissage, s'améliorer, rencontrer les bonnes personnes, apprendre des autres. Moi, j'apprends vraiment beaucoup des autres. Et en revanche, je suis pas quelqu'un qui m'écoute beaucoup. Enfin, comment dire ? Moi, je vais vivre les trucs et après je vais faire ah oui. Je veux dire, ah oui, j'ai eu ça comme émotion, ah oui, bah il s'est passé ça, bah oui, tu vois. Il y a très souvent la musique d'ascenseur dans ma tête, quoi. Moi, je vis des trucs, hein. Je vis des trucs et je me dis, c'est cool et tout. Et puis, d'ailleurs, ça fait beaucoup rire mes potes, quoi.
Ouais.
Esma, après, je pense que aussi, ce qui participe, c'est que je suis bien entourée. Enfin, j'ai un ancrage avec mes amis, avec ma famille aussi, qui fait que je peux communiquer plus facilement. Et je communique beaucoup, en vrai, sur des sujets liés à ce qui m'arrive. Mais je veux dire, je le communique de manière pour raconter. Je le communique pas dans une démarche de me dire, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Ou, tu vois ce que je veux dire? C'est que ouais. vraiment, je me laisse, j'ai l'impression d'être sur un espèce de... Depuis toute ma vie, je suis sur un tapis, comme ça. Mm. Puis parfois, je m'arrête, je fais des checks. Parfois, je prends des gens avec moi, je les dépose, c'est pas grave.
Enfin, j'adore la métaphore du tapis volant. J'ai eu Aladdin
mais
en
c'est...
tête.
Ouais, c'est vrai. Mais parce que j'ai toujours voulu être Aladdin, en vrai.
Voilà, ouais.
J'ai toujours voulu être les garçons dans les Walt Disney, de toute façon.
Bah, l'image des princesses, c'est pas forcément.
Toi, t'es
la
plus la princesse, toi.
Bah, Anastasia, oui. Les autres, c'est questionnable.
J'adore Anastasia.
Mais j'adore Anastasia.
Ouais, moi aussi. Je connais toutes les chansons. On s'était chantera.
Ah, on s'est chantera à la fin, l'intimité. Franchement. Si tu veux, comme ça, on aura fait espagnol, anglais, français, voilà. La totale. Est-ce qu'à un moment, t'es tombé de ce tapis où t'as perdu un peu l'équilibre, parce que j'aime bien aussi parler des moments qui se passent pas toujours comme on veut, comme on l'imagine, et comment peut-être t'es remontée à bord.
Je suis tombée plein de fois du tapis. Ouais. Hein. Ah, je suis tombée plein de fois.
Est-ce qu'il y a un moment dont tu peux nous parler, peut-être qui t'a particulièrement marqué
Alors, dans ma vie d'entrepreneuse, ouais, il y a plein de fois où, tu vois, quand on commençait au début, on n'arrivait pas à se payer, on comprenait pas ce monde-là. On se rendait compte qu'à la fin de l'année, le bilan était pas du tout positif, alors qu'en fait, on bossait comme des malades, tu vois. Ouais. Ça, vraiment, ça nous foutait des cons. On se disait, mais est-ce qu'on continue, tu vois? Est-ce qu'on baisse pas les bras? Et parce qu'on était ensemble, justement, on s'est dit, non, attends, hors de question, on va trouver, on va apprendre, on va s'intéresser, on va s'entourer des bonnes personnes. Et là, tu vois, quand je regarde comment mes potes gèrent les boîtes maintenant, je suis hyper contente, quoi. Et ce qui est ouf, c'est que... Je fais une parenthèse là-dessus, c'est qu'elles-mêmes ne m'ont jamais... je pense qu'elles ont toujours su que je ferais un truc artistique après et qu'à l'inverse de dire « ouais, mais comment on va faire ?» ou alors « ah bah non, mais il faut que tu restes », enfin tu vois, de faire un espèce de chantage affectif,
ouais.
Elles m'ont toujours vachement encouragée, quoi. Et ça, je pense que c'est un truc de meuf aussi.
Ouais, c'est possible.
Ce truc sororité où tu vois, là, elles m'ont encore envoyé des messages. Alors, on se voit moins, tu vois, mais en mode « putain, c'est génial ce qui t'arrive ». Et moi, je suis hyper contente pour elles aussi. Alors il y a aussi des, j'embrasse aussi mes anciennes associées que j'aime beaucoup, hein, mais je parle plus d'elles parce que j'ai plus vécu de choses avec elles, quoi, tu
ouais.
vois. Mais voilà, et avec elles, il y avait vraiment des trucs où même, tu vois, tous les food market qu'on a fait sous la pluie, où en fait t'as personne alors que tu mets un mois à préparer cet événement et puis tu te dis putain, personne ne vient parce qu'il flotte, hein, tu vois.
Ouais.
Genre,
en
là,
plus
mais...
tu peux pas contrôler ce genre de choses.
Ouais, voilà.
Ça c'est le genre de truc, tu te dis putain, voilà. On a tout fait parfaitement et la pluie is gonna ruin the party,
voilà.
quoi.
Et après, en fait, tu te rends compte que ça en fait qu'un sur les 10 que t'as fait dans l'année, donc
ouais.
Voilà, mais ouais, c'est plus ce côté-là, la difficulté de monter une boîte quand même en France, parce que je connais qu'en France, mais en tout cas avec tout ce que ça implique, c'est compliqué, je trouve, parfois moralement de continuer, parce que physiquement ça te...
Ouais.
Ça te...
C'est drainant, ouais. Ouais, c'est vrai, et je pense que c'est bien d'en parler pour montrer que c'est une possibilité, mais de montrer aussi parfois les revers... Tu vois, moi, une grande peur que j'ai, c'est de faire un burn-out un jour. Parce
ah oui.
Mais parce qu'on me la met aussi dessus, tu vois. Les gens me disent, putain, Louise Vega, tu vas faire un burn-out, tu vas faire un burn-out. Et tu vois, j'ai pas l'impression. Et je me dis toujours, non, mais t'as des signes avant-coureurs quand même. Mais c'est vrai que comme j'entends pas trop les signes que mon corps m'envoie,
oui.
vraiment, ma panique, c'est un jour, et ça arrivait à des amis, genre, tu ne te lèves plus de ton lit, tu vois.
Bah non, mais du coup, peut-être que tu peux... Moi, c'est un sujet dont je parle dans la série, justement. Je fais un épisode là-dessus. Parce que j'ai une amie qui en a eu un et qui me disait que c'était pas du tout pris au sérieux et que en fait les gens disaient bah non mais en fait elle a la flemme de bosser en
ouais,
fait
voilà, ouais,
c'est
ouais.
Souvent des femmes malheureusement à chaque fois mais non elle s'est pris une gueule de bois même voilà et du coup et en fait elle ça a été vraiment compliqué ça a encore des séquelles sur elle maintenant elle a peur de refaire un burn-out
ouais.
Et moi, je trouve qu'il faudrait qu'on puisse en parler, effectivement, mais peut-être que tu peux déjà anticiper en faisant, tu vois, en prenant soin de toi une fois par semaine. Tu dis, là, je me fais ma pause, je me fais ma petite heure de massage. Là, tu vois, je me fais mon acupuncture. Enfin, tu vois, des trucs... Moi, c'est des trucs sur lesquels j'étais pas du tout avertie. Enfin, autant te dire qu'avant, mes potes, elles me disaient ça. J'ai fait un cours de yoga de nanana. J'étais là, ouais, super. Enfin, tu vois...
On va se faire une bouffe.
Ouais, voilà, j'étais là, génial, ton truc. Alors, tu vois, et maintenant, comme je me rends compte aussi que... On vit dans un monde qui va très très vite, que tout va très vite, que en fait, enfin, tu vois, c'est vraiment très rapide.
Ah, mais je pense que c'est la société qui nous rend burn-outé, hein, tu vois. C'est,
mais du coup, je me force entre guillemets.
Ouais.
Il y a pire hein, comme manière de se forcer, mais en tout cas, à me dire, bah là, cet après-midi, en fait, je vais me faire kiffer, je vais faire ça, 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 et je vois pas les effets concrètement, mais je sais que ça participe quand même à ne pas me laisser penser constamment que au taf. Ou que, enfin, tu vois, je pense qu'il faut trouver quand même des sas de décompression. Donc toi, peut-être que, voilà, ça se trouve, tu vas pas en faire. Il y a des gens, enfin, moi, j'en ai jamais fait, alors que t'as fait aussi comme une malade, ouais. Tu vois. Il y a des gens qui n'en font pas, tu vois, et puis tu en as d'autres qui sont plus sensibles. Chacun est constitué de manière différente, mais en tout cas, si toi, tu as déjà cette appréhension, fais-toi des
prévenir
petits,
que hier.
Voilà, fais-toi des petits temps de pause, et sinon, t'envoies chier tout le monde, et puis voilà.
Mais j'ai une amie qui fait ça, elle habite aux États-Unis là, mais elle me dit, moi, quand je sens que... tu vois, elle le sent venir, elle est très à l'écoute de son corps. Quand elle sent que là, tu vois, ça bouillonne trop en elle, genre, elle me dit, je me casse, je limite à dire au revoir à personne, tu vois, genre, elle annule tout ce qui était prévu, et elle va faire genre 4 jours de retraite méditative, ou enfin, tu vois, elle est vraiment dans le mode.
Ouais, moi, je suis pas à ce niveau-là.
Moi non plus.
Moi, je serais là, ça fait combien de temps? Une minute.
Ouais, ouais. Ça me fait vachement de bien, et je me dis, putain, peut-être parfois, en effet, pour prévenir, faut peut-être. J'ai fait 3 jours de retraite silencieuse, moi, au Nouvel An. J'ai passé mon Nouvel An. Dans un bain de son. Alors, dit comme ça, ça fait archi gourou.
Non, mais moi, j'adore.
Mais franchement, c'était vraiment cool. Et puis, ça m'a aidé.
Oui, voilà, ça t'a
recentré. Tu peux déconnecter 3 jours.
Sûr.
Personne ne va t'oublier, mourir.
Après, je pense que ce qui est important aussi, c'est de... Enfin, je sais pas si toi, est-ce que tu communiques beaucoup avec tes amis ou si elles sont de bons conseils, ou tu vois, mais en tout cas, ça, c'est, je pense que pour tenir, rien que le fait, t'as passé une journée de merde, il s'est passé ça, tu vois une pote ou tu l'appelles ou tu... Juste, tu...
T'évacues.
Ou t'évacues.
Ouais.
Ça fait du bien en fait, tu vois, rien que ça, ça fait du bien, et je pense qu'il faut pas non plus tout garder. Ça, c'est quelque chose aussi que j'essaye de faire, parce que je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup ou qui m'écoute.
Ouais.
Donc parfois, quand il y a des petites choses où je me dis, ah, ça m'a un peu
travaillé
ou tiens, je me pose beaucoup de questions là-dessus, j'en parle tout de suite, et je sais qu'après ça va mieux.
Ouais, c'est vrai. D'où l'importance aussi, si on peut, de se faire suivre par une psy. J'en profite pour dire, pour peut-être celles et ceux qui n'ont pas vu passer, qu'à partir de 2022, sur prescription médicale, les consultations de psy sont remboursées. Voilà, donc c'est, enfin, je trouve ça quand même génial, parce que, tu vois, c'est assez dingue de se dire que, enfin, je suis assez advocate de la santé mentale, et en fait, tout ce qui est santé physique, c'est remboursé quasiment. Mais santé mentale, je sais même pas si les psychiatres sont remboursés, tu vois, j'ai pas envie de m'avancer, hein, mais... Bon, c'est cool, je trouve que les psys maintenant le soient, parce que
c'est essentiel.
Hyper important, surtout après le confinement. Moi, je sais que j'ai une psy que j'adore, et après le confinement, elle m'a dit, mais enfin, c'est limite elle qui allait faire un burn-out, tu vois, de ça a tellement explosé en rendez-vous que...
Parce que je pense qu'on nous a pas préparé à retourner dans la vie après le confinement. Enfin, moi, j'ai un peu cette sensation-là. On s'est retrouvés, on était là, ok, on en a vachement parlé pendant le confinement, on a retrouvé notre liberté, mais on était tous un peu genre. Alors, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que je fais moi
déjà?
Ouais, tu vois. C'est, t'imagines, on a été dans un espèce de flottement. On était tous sur un tapis à ce moment-là. Je vous
c'est
dis,
vrai.
Pendant
t'as
le confinement,
tout le monde.
On était là, on va quelque part, mais on sait pas où. Voilà. Bon, moi, j'étais déjà habituée, donc ça a été, tu vois.
Ouais.
Je me suis dit, bon, bah, de toute façon, j'y vais. Voilà, mais les gens qui sont pas habitués et qui. J'ai l'impression que les énergies des gens après le confinement, en tout cas, sont il y a quelque chose d'un peu lourd, il y a un peu un truc de peur par rapport à cette vie qui revient, tu vois.
Ouais.
Et c'est vrai que je trouve personne nous a dit, bon, là, vous avez été enfermé pendant je sais pas combien de temps, et puis là, ça reprend. Tout reprend, et voilà.
Et ça a été
lâchez
un peu overnight.
Surtout
le premier, tu vois, c'est vraiment tout
oui,
arrivé
voilà,
ouvert.
Exactement.
Limite, les autres couvre-feu, puis voilà, progressivement, mais... Non, c'est sûr qu'on se traînera les séquelles de cette pandémie pendant quelques temps.
Et après, il
bon.
Y a du positif aussi. Enfin, tu vois, moi, je n'aime pas dire ça, mais ça a été
hyper bénéfique. Il y a eu des moments d'introspection quand même. Voilà. Ouais. Même pour pas mal de gens, c'est vrai qu'au moins, ça a permis de prendre du recul, peut-être, dans une société qui va très, très vite.
Voilà, les gens prennent plus de temps.
C'est pas aller très, très vite.
Mais tu me l'envoies quand? Tu sais pas. Ok.
D'accord. c'est pas de ta faute, là. T'avais une vraie excuse.
Ouais, voilà.
T'avais quand même
mais
pas mal d'excuses.
Donc oui, par contre, les gens s'écoutent plus, j'ai l'impression.
Ouais.
Ça, c'est cool.
Je pense, franchement, même si on peut critiquer la vague un peu bien-être et ses excès, je pense qu'elle est nécessaire. Quoi.
Ah, mais oui.
Je pense dans notre société... Moi, je pense là, je vais essayer de faire venir de plus en plus d'intervenants qui ont des billes à apporter. Je sais que j'avais fait un épisode avec... donc Jonathan Lehmann qui est un avocat, qui est un ancien avocat d'affaires, qui a un peu pété un câble un jour, qui a tout plaqué pour aller étudier le bonheur en Californie, et qui aujourd'hui a une app de méditation, qui en parle vachement bien, qui a écrit des livres sur le sujet. Et l'épisode avait vraiment résonné auprès de vous, chères auditrices. Donc, je pense d'avoir comme ça des personnes qui sont de domaines très différents, qu'on est bien apportés, parce que le problème, c'est que tu vois, on veut tous mieux faire. Mais comment mieux faire? Tu vois, il n'y a pas de mode d'emploi pour être plus serein. Donc oui, il faut explorer, il faut tester, mais tout le monde ne peut pas se payer à l'acupuncture toutes les semaines.
Bah
ou
oui, non, mais c'est clair.
Semaines,
ah
tu
bah
vois,
ouais,
donc,
bien sûr. Ah bah oui, non, complètement.
Essayer d'apporter des billes pour que ce soit plus accessible.
Mais du coup, il faudrait peut-être que ce soit accessible aussi dans l'éducation. Tu vois, là, je parlais à une fille avant qui me disait qu'en Suède, tu avais des cours d'empathie.
Putain.
Pour apprendre aux enfants l'empathie.
Non, mais tu sais que parfois, moi, je me demande vraiment pourquoi on copie pas tout ce que font les pays nordiques. Enfin, il y a un
c'est vrai, grave.
Non, mais tu vois,
ils sont nickels
sur tout. Ils sont les mecs sur la parité, sur les congés, les congés paternité sont égaux aux congés maternité. Donc, déjà, l'égalité là-bas, il y a beaucoup moins de sexisme. Enfin, l'indice de bonheur est plus élevé. Enfin, qu'est-ce que vous voulez d'autre comme preuve pour vous dire que le système fonctionne quand même carrément mieux là-bas.
Ouais, ouais. Et quand elle m'a dit ça ce matin, je me dis, mais c'est génial. Donc ça veut dire qu'ils apprennent aux enfants l'empathie, qui est quand même ce qu'on devrait apprendre, la base de ton évolution en adulte, quoi, tu vois.
Mais,
si tout le monde était un peu plus empathique avec tout le monde, on serait peut-être moins stressé, on serait peut-être moins dans l'attente, on serait moins...
Dans la frustration, parce qu'on ne comprend pas les autres.
Voilà, exactement.
On en parlait hier, j'étais à une table ronde à Sciences Po sur l'engagement et notamment le désengagement de la jeunesse. Et en fait, on a un peu élargi le débat. Et en fait, je pense un des gros problèmes, tu vois, aujourd'hui, c'est que, en fait, on respecte pas les opinions des autres, mais parce que, en fait, on nous a jamais appris à échanger et avoir un esprit critique, tu vois.
Et penser que les autres peuvent penser différemment, surtout.
Tu vois, c'est parce que parfois, quand c'est des convictions, en fait, c'est tellement viscéral que, tu vois, je peux comprendre, en effet, moi, je suis pas sûre que je pourrais être pote avec des gens racistes, quoi. Il y a des trucs, ok, tu pourras pas être pote avec tout le monde, mais juste être dans l'échange, dans le respect de l'opinion de l'autre. Et genre, je pense qu'il devrait grave y avoir des cours un peu de débat. Et ce qu'on se disait hier, pour pas que tu vois, la personne se fasse stigmatiser si elle est d'un tel bord ou quoi, c'est peut-être de faire, mais comme on faisait parfois, tu vois, moi je me souviens dans mes cours d'anglais où on devait prendre le rôle qui nous était assigné. Donc c'était genre, vous allez défendre, mais c'était pas politique, tu vois, c'était genre, je sais pas, vous allez défendre le passage d'une loi et vous allez défendre le passage d'une autre loi. Et t'avais pas le choix de qui t'étais. En fait, je trouve que c'est un exercice hyper intéressant. Parce que du coup, même ça te force, si c'était pas toi le parti ou la conviction que t'as, bah de te mettre quand même à sa place et de réussir à trouver des arguments parce que ta note, entre guillemets, en dépend, tu vois. Et je trouve que ce serait en effet un super exercice pour développer le respect, la tolérance et même développer l'esprit critique, quoi. Enfin, pourquoi tu penses ça? Pourquoi l'autre pense pareil?
Oui, parce que tu peux t'éduquer, du coup. Il y a plein de choses que tu peux apprendre, tu peux te déconstruire, bien évidemment.
La déconstruction, c'est un vrai sujet.
Ouais.
Sujet de mon futur livre, mais on va du coup pouvoir parler du tien. Toi, c'est une bande dessinée. Sors-la.
C'est pas une bande dessinée, c'est un...
Alors pourquoi m'a-t-on dit ça?
Non, en fait, c'est sûrement moi qui dis une connerie. tu sais, moi, il y a des dessins, je me suis dit, c'est une BD, voilà. Non, c'est un livre illustré.
D'accord. C'est trop sympathique, livre illustré. J'adore la couleur, déjà.
Regarde.
Je suis en train de préparer un tailleur de cette couleur-là.
Ah ouais?
Voilà, bleu roi. Oh,
j'adore.
Marinette, 20 histoires sur la vie. Attends, je suis désolée, j'ai un biais.
Ah oui, moi aussi je le fais tout le temps, ça sent bon.
C'est tellement bon.
Ouais.
J'adore sentir le livre.
Moi aussi. Vous allez le sentir après. Tout le monde va sentir mon livre.
C'est trop beau. Est-ce que je spoil à la caméra?
Imagine la meuf.
Vous allez juste avoir le droit de voir la couverture.
Tu veux sentir mon livre?
Toutes les personnes en audio qui sont en PLS parce qu'ils ne peuvent pas voir le livre.
Ah, mais tu peux faire.
Je vous invite à aller sur YouTube. Tu veux faire ASMR du bruit? Bah écoute, on est là-dedans depuis le début, alors continuons, poussons le trait.
Attention, je vais ouvrir le livre.
Quelle horreur. Moi je me bouche les oreilles parce que je déteste l'ASMR.
Chut.
Pas mal. Non, vraie expérience sensorielle. Tu vois, peut-être que c'est peut-être les gens qui auront écouté, qui auront le plus envie de
sortir mon livre.
Ce livre. Écoute, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui t'a donné envie de donner vie? Tu vois, j'ouvre Marinette présidente. Il est grand temps que je me présente. Est-ce une exclusivité? Est-ce que Marie, tu te présentes aux élections présidentielles de 2022?
Non, franchement, ce serait un fiasco.
Non, mais dis-nous en effet, pourquoi? Pourquoi Marinette?
Pourquoi Marinette? Alors, parce que ma mère m'appelait Marinette. Déjà, d'accord. Ça vient... Enfin, elle m'appelle toujours Marinette. Ce que je disais dernière fois, ça peut être un peu gênant. Mais bon, j'aime bien. Écoute, j'assume.
T'assumes.
Et en fait, c'est Marinette, c'est un livre de... 20 histoires sur la vie, c'est-à-dire 20 sujets qui sont considérés comme tabous, qui, pour moi, je pense, ne devraient plus être considérés comme tabous. Le but de Marinette, c'est que tous les enfants puissent le lire et qu'on se dise, le porno, c'est plus tabou, le consentement, la masturbation, la mort, la vieillesse, tu vois.
Ouais.
Des sujets qui sont, alors, quand je dis considérés comme tabous, c'est pas forcément pour tout le monde. Là, Marinette, elle a la chance d'avoir sa maman qui même si parfois elle répond un peu à côté, qui est OK pour en discuter avec elle, mais il y a des enfants qui n'ont pas du tout accès à ça. Et du coup, moi aussi, je me souviens que quand j'étais petite, je n'osais pas parler de certains trucs, où très vite, je me suis rendu compte qu'il y a des sujets, c'était soit c'était trop tôt, soit j'étais trop petite, soit bah il faut pas en parler. Non, on parle pas de ça, tu vois, voilà, faut pas en parler, quoi. Ah ouais, faut pas en parler, mais bon, t'es sympa, moi je vais devenir adulte, donc j'ai pas envie de me traîner toutes mes casseroles. Tu vois, quand j'aurai 30 ans, et je devrais moi aussi fonder une famille un jour, ou tu vois, avoir une vie, quoi. Donc, je me suis aussi rendu compte que mes copines qui avaient des enfants de cet âge-là étaient exactement dans... n'avaient pas les clés, non plus. Tu vois, parce qu'elle me dit, putain, il m'a demandé ce que c'était du sperme. Putain, va répondre à ça.
Ouais, ouais.
J'ai un pote qui m'a dit ça. Je dis, bah, t'as répondu quoi? Il me dit, bah, j'ai pris le temps, mais tu vois, il a paniqué.
Il a pris de court, quoi. Ouais, ouais.
Mais il l'a bien expliqué après, mais tu vois, c'est des. Et puis, pareil, des sujets bah, comme le consentement ou le porno, où en fait, c'est des sujets, tu sais que tu dois en parler aux enfants, mais tu sais pas exactement à quel moment. Donc, t'attends qu'ils te posent une question. Enfin, je te dis ça par rapport à moi, mes neveux, mes nièces et mes copines qui ont des enfants. Et du coup, à chaque fois, c'est, mais quand est-ce que je dois en parler? Mais tu crois qu'elle est assez grande? Mais. Enfin, voilà. Et donc, je me suis dit, il faut qu'on fasse un livre. Que tu puisses lire avec ton enfant ou un enfant avec l'enfant, voilà. Et ou au moins, bah, il y a une. C'est pas, si tu veux, un livre, je donne pas des leçons de vie là-dedans. Mais j'essaie au moins juste d'avoir un outil qui permet de libérer la parole et où, si toi, en tant qu'adulte, tu vas pouvoir relever des absurdités et tu vois, pourquoi pas te rendre compte aussi de ce que toi, tu vas inculquer, tu vois. C'est comme je l'ai fait lire à une petite fille hier. Il y a un épisode sur la mort et elle vient me voir et elle me dit « Toi, tu vas être en urne ou enterré ?» Et je l'ai écrit, l'épisode, donc je le connais, mais je ne m'étais pas posé la question.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, j'étais là « Bah... tu vois, donc Marinette aussi va te permettre, toi, en tant qu'adulte, de te confronter à des sujets...
Que parfois t'es vite,
que
ou t'as
vite,
pas envie d'y penser.
Parce qu'on t'en a pas parlé. Enfin, le sujet de la mort, c'est un truc... c'est compliqué de parler de ça. Et en même temps, il faut en parler parce que ça fait partie de la vie, tu vois.
Ouais.
Donc voilà, je me suis dit que ce serait vraiment chouette d'avoir un livre pour adultes et pour enfants qui permette d'ouvrir le dialogue et surtout qui fasse ce travail de transmission. Parce qu'en fait, c'est très tôt. Enfin, moi, je me rappelle de plein de trucs qu'on m'a dit quand j'étais petite qui ont eu un impact sur ma construction en tant qu'adulte, tu vois. Et du coup, je pense que c'est à cet âge-là où il commence à s'éveiller et où il commence à pouvoir se dire j'ai un esprit critique, je peux avoir une opinion, je peux me sentir bien, qu'il faut les laisser expérimenter ça et leur expliquer de la manière la plus simple possible. En fait,
et surtout avoir des réponses, parce que c'est vrai que, enfin, moi, par exemple, j'ai jamais eu de réponse à tous ces sujets. Enfin, c'était non abordé.
Ah bah non.
Donc, du coup, t'apprends plus ou moins par tes potes, mais du coup, c'est pas des super références.
Ouais,
enfin, c'est assez toxique, quoi.
Après, il y a aussi beaucoup de parents qui n'ont pas donné de réponse parce que simplement ils savaient pas, tu vois, comment y répondre, ou parce qu'ils n'étaient pas éduqués sur le sujet. Bon, après, parce qu'ils avaient un avis et t'as pas eu la bonne réponse, tu vois. Mais je veux dire, c'est pas forcément que c'est des mauvais parents.
Tout à fait, l'éducation, personne ne l'a pas faite.
Voilà,
hein.
Mais c'est juste qu'à l'époque, effectivement, parler de sexualité, parler de masturbation, tu vois, c'est très compliqué.
Ouais.
Est-ce que se masturber, c'était pas bien? Qu'il fallait une fille qui se masturbe, ça n'existait pas,
très peu, tu vois.
Et en même temps, les garçons, ça existait très tôt, mais du coup, ils se masturbaient sur des pornos, mais tu leur expliquais pas que c'était pas la vraie vie. Enfin, tu vois, donc c'est juste que c'est des... Et même moi encore, il y a des sujets où ma nièce est venue me voir la dernière fois. Je l'avais pas vu venir, celle-là. J'avais laissé traîner un tampon. Elle fait, c'est quoi ça? Et là, j'ai fait... Et ma soeur, elle me dit, bah vas-y, madame, j'explique des trucs aux enfants. J'ai fait, alors ça... Bon, et du coup, j'étais là, putain, c'est hyper chou à expliquer les règles à une enfant, tu vois.
Elle a quel âge?
Bah elle est, ma soeur m'a dit, elle est un peu trop jeune, elle a 4 ans, tu vois.
Ah mais ouais. Bon, ouais, 4 ans, c'est
4
compliqué.
4 ans, c'est compliqué. Ouais. Mais elle m'a dit, je lui en ai quand même un peu parlé, parce que du coup, elle, tu vois, elle découvre quand même des choses. Donc, mais du coup, je me suis dit, pour le tome 2, un épisode sur les tampons.
Sur les règles,
voilà,
et tout,
où je pourrais en plus parler des tampons et aussi de plein d'autres choses autour de ça, tu vois, de la cup, de. Voilà. Enfin, voilà. Des moyens
de protection, mais t'as vu, mais
protection, merci.
Mais, non, mais t'sais, même quand on en parle aujourd'hui, ça reste quand même un peu gênant. Mmh. Et c'est vrai que c'est un.
Là, je trouvais pas mon mot. Hein. C'est pas que c'était gênant.
Okay.
Non, non.
Mais de manière générale, les gens. Enfin, moi, ça m'est encore arrivé récemment où je sais pas. Je crois que j'ai demandé à quelqu'un, un tampon et je sais plus quelle phrase elle a sorti, mais genre t'as tes ragnagna ou un truc comme ça. J'étais genre. Parce qu'il y avait des mecs, tu vois, dans la salle, je fais, j'ai mes règles, mes règles. Enfin, tu vois, pourquoi ça devrait être si gênant de le dire? Mais bon,
oui,
après,
oui,
c'est des années d'intériorisation, de shame qu'on ne peut pas déconstruire du jour au lendemain. Mais...
Même des sujets dont ce livre, c'est aussi un peu un truc thérapeutique pour moi aussi. dans le sens où en fait c'est des sujets où même moi ça me met mal à l'aise, c'est-à-dire que même moi dans ma déconstruction, même si je suis hyper avertie dessus, t'as quand même un truc de l'enfant justement, tu dis non ça je peux pas en parler ça,
tu vois.
Ou alors faut en parler, mais bon, comment en parler, ou tu vois. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est pour ça qu'il s'adresse vachement aux adultes aussi, quoi, tu vois. Et je pense qu'il faut pas avoir honte, en fait, pas avoir honte. Et c'est dès le, tu vois, le celui sur le consentement. Pour moi, le consentement, ça devrait être un des premiers trucs qu'on apprend aux enfants quand ils évoluent dans leur vie. Et aux petits garçons, notamment, et aux petites filles, pour que si c'est non, c'est non, tu vois. Et aux petits garçons, leur dire si elle t'a dit non, c'est que c'est non. Enfin, tu vois.
Ouais, parce que c'est vrai que j'ai l'impression aujourd'hui que... J'ai vu un documentaire il n'y a pas très longtemps là-dessus. J'ai oublié le nom, mais c'était sur... C'était sur le sexisme et encore tous ces travers, et notamment dans les écoles, tu vois. Et en fait, c'est vrai qu'il a été tourné il n'y a pas très longtemps, je pense en 2019. Mm-hmm. Et tu voyais qu'encore les enfants, en fait, ne savaient pas du tout ce qu'était le consentement. Les ados, oui. Mais tu vois, j'ai l'impression que, bon, tant mieux hein, si les ados maintenant sont courants, à l'époque où nous, on ne l'était pas.
Ouais.
Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout encore abordé dans les écoles, parce que je pense... les profs ont encore la gêne, il n'y a pas de référent, limite.
Ouais. Les ados, ils
devraient avoir peut-être un poste, tu vois, dans les écoles.
On en parlait, effectivement. C'est vrai que moi, je trouve que les abdos... Enfin, les abdos, carrément, les abdos, c'est super. Non, je trouve que les ados... Enfin, moi, je veux dire, à 14 ans, je ne savais pas ce que c'était que... Je ne savais même pas que je pouvais aimer les filles, tu vois. Et maintenant, ils savent pansexuel, non-genré, non-binaire, ce qui est génial, tu vois. Ouais. Mais je me dis, ouais, moi, à 14 ans, je jouais encore au chien et au manège avec ma sœur. Il y a un gap qui est, mais avec les réseaux sociaux aussi. En revanche, ils l'ont appris là, parce que je pense aussi qu'on est à Paris. Enfin, tu vois, il y a aussi ça. Hein, tous les enfants n'ont pas accès à ce genre de... C'est parce que leurs parents s'éduquent aussi, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Et parce qu'ils viennent d'un milieu où ils s'éduquent et ils sont plus avertis là-dessus. Et qu'ils ont entamé ce processus de déconstruction. Mais du coup, c'est vrai que les enfants à l'école, primaire notamment... ou avant l'entrée du collège, quoi, on se disait ce serait bien qu'il y ait un cours, tu vois, qui parle d'éducation sexuelle, déjà de base. Je veux dire, tu passes quand même à un moment de ta vie où tu as ton corps qui change, tu ressens des trucs et personne te dit c'est normal, tu vois.
Ouais, c'est clair.
Juste, enfin voilà, ou même avoir un espace où tu puisses parler, échanger, tu vois, faire une prise de parole ou parler à un adulte. Qui si t'as des questions, qui puissent venir te voir, enfin tu vois.
Ouais.
Et je trouve ça ouf qu'en France on n'est pas encore. Alors peut-être qu'il y a des programmes qui sont en train de se mettre, je sais pas. Mais je pense qu'un cours d'éducation sexuelle, mais pas à l'ancienne, mais genre avec un vrai intervenante ou intervenant, tu vois, qui
Limite des cons, tu vois, là je m'en bats le clito, ou tu vois des personnes qui sont hyper éduquées, de manière très libérée, tu vois.
Et je pense
que ce soit pas le mec avec sa banane et qui montre comment on met un préservatif.
Voilà.
Quoi. Parce qu'aux États-Unis, il y a des cours d'éducation sexuelle, mais je sais pas si c'est. Je crois que c'est pas une super réussite non plus, tu vois.
Non,
Donc c'est vrai que c'est un peu à redéfinir. Je me demandais justement si toi tu voyais un revers à aujourd'hui cette déconstruction totale, notamment des identités sexuelles. Le fait qu'aujourd'hui. On en parle de plus en plus, qu'il y ait de plus en plus quand même cette tolérance.
Ouais.
Je me demande, hein, ne le vivant pas moi-même, si il y a quand même des revers que peut-être tu aurais envie de souligner, ou peut-être des écueils, tu vois, à ne pas faire dans cette volonté de vouloir inclure tout le monde, vouloir mettre en avant toutes les identités.
Ah non, moi je trouve ça super.
Ouais, il y a zéro revers de la médaille, quoi.
Non, moi je trouve ça génial qu'il y ait des gens qui disent « bah moi je me sens comme ça ». J'ai envie d'être comme ça, tu vois. Peu importe. Alors oui, effectivement, maintenant t'as plein d'identité possible, tu vois. T'as plein de genres possibles. T'as des gens qui sont binaires, non binaires. T'as des gens qui sont transgenres. T'as des gens qui sont transgenres, non binaires. Enfin, tu vois.
Ouais.
Oui, t'as des combinaisons. Mais en vrai, ce qui compte, c'est ce qu'ils ressentent.
Ouais.
S'ils ont envie de se définir comme ça, ils sont obligés maintenant de se mettre dans. Ils veulent pas être dans une case, mais ils sont obligés de s'y mettre pour dire regardez, moi, je suis différent et je me ressens comme ça. Et en fait, on se rend compte que toutes ces minorités, toutes ces différences, en fait, c'est la majorité quand tu regardes.
Ouais.
Et que la majorité qu'on dit, nous, notre schéma actuel, ce n'est pas la majorité, c'est toutes ces minorités qui forment cette majorité. Et c'est des gens aussi qui évoluent, tu vois. C'est, je veux dire, tout au long de ta vie, tu vas exprimer des choses. Tu vas te rendre compte qu'en fait, t'aimes ça et puis après, t'aimes quelque chose d'autre ou que t'as envie de quelque chose et qu'en fait, t'en as plus envie plus tard. Et pour moi, l'humain, il évolue, quoi. Et donc, je trouve ça super qu'à chaque moment de ta vie, tu puisses t'affirmer et te dire je suis comme ça. Et je trouve ça ouf qu'il y ait des gens qui disent, enfin qui aient un avis, c'est pas ma vie, c'est la tienne, tu vois.
Ouais.
Je trouve ça quand même dingue ce concept. Qu'est-ce que ça te change, tu sais avec qui je fais ma vie, tu sais ce que je vis dans mon cœur, dans mon corps.
C'est dingue, je sais, mais comme tu dis en plus, tu vois, si tu prends l'exemple des goûts qui changent En fait, ça, tout le monde l'accepte, tu vois. Mais tu l'acceptes que t'aimes peut-être le tennis à 10 ans et le golf à 50, tu vois. Alors pourquoi le fait d'aimer différentes personnes de différents genres peut poser problème? J'avoue que moi aussi, c'est une incompréhension totale. Non, mais je pense, enfin, si j'essaye de pousser le truc, c'est juste en fait la peur de la différence, du changement.
Oui.
Si tu vois le progrès vs le conservatisme, tu vois, c'est comme les gens qui voulaient absolument que le roi y reste vs les autres qui voulaient lui couper la tête. Enfin, si tu vis pas la même, t'as pas le même rapport au changement en fait.
Ah oui, mais je vois pas. Enfin, c'est bien le changement.
Bah ouais.
Il y a un épisode sur la différence dans Marinette justement où ça parle de grossophobie et donc sa mère lui explique, mais elle dit mais pourquoi en fait c'est pas bien d'être gros, et sa mère dit mais non, c'est pas que c'est pas bien, c'est qu'il y a des gens qui pensent que voilà, c'est pas beau, c'est pas comme ça, et donc elle dit mais pourquoi on les embête ces gens-là, elle dit pas parce qu'on embête les gens qui sont petits, on embête les gens qui sont trop grands, trop petits, trop comme ça, trop comme ça, et donc Marinette dit bah en fait il faudrait qu'on se ressemble tous, comme ça plus personne s'embête. Et donc à la fin t'as plein de Marinettes qui sont exactement pareilles, elles se reconnaissent pas, tu vois, et c'est un peu ça le truc, c'est de se dire si on n'est pas tous différents, au bout d'un moment, quoi, on est tous pareils, super le monde.
Ouais, c'est, ah non, enfin, mais c'est vois, totalement
ça
vrai.
Ça va être génial, on va s'éclater.
It's gonna be fun.
Ouais, voilà.
Non, et c'est, mais c'est hyper, hyper cool et pertinent, je trouve, d'avoir pris une enfant, parce que c'est souvent, en effet, quand c'est une enfant qui va te dire quelque chose, que tu vas te rendre compte de l'absurdité de la chose.
Mais oui.
Tu vois, genre, non, chut, elle est grosse, tu vois, lui demande pas pourquoi elle mange, tu vois, ou je sais pas quoi. Et la petite, il va dire, mais pourquoi ? Enfin, elle a le droit. Et tu sais, derrière, les parents, parfois, ils se sentent cons, genre, ah bah oui, c'est vrai. Enfin,
bah oui,
parce qu'ils
n'ont
pas encore toutes les injonctions intériorisées. Ouais. Et donc, ça aide vachement, je pense, à se rendre compte.
Ouais, c'est des terrains, vraiment neutres, quoi, tu vois. C'est des terrains qui découvrent tout. Donc, c'est là où il faut leur dire qu'ils ont le droit de découvrir comme ils le souhaitent, tu vois.
Trop cool, trop intéressant. Écoute, j'ai quelques petites dernières questions pour toi, Marie. J'aime bien demander si tu te souviens du pire conseil que l'on t'ait donné.
Oui, de me faire une crête. Ça, c'est vraiment le pire conseil.
On t'a conseillé.
Oh, on m'a conseillé, on m'a dit fais-toi une crête. Et puis, bah, tu connais, moi, j'étais sur mon tapis. Je vais filez-moi la tondeuse. Et ouais, donc j'ai eu une crête comme ça pendant très longtemps, mais parce que aussi je me cherchais un peu, j'étais dans toute cette phase, j'avais 17 ans, je me cherchais, j'avais besoin de justement de me mettre dans une case, tu vois, voilà, et de me dire il faut que je ressemble à une lesbienne, ce qui est débile de dire ça quand j'y pense, parce qu'on s'en fiche de l'apparence, mais à l'époque, il fallait que pour que je puisse m'affirmer, j'ai les cheveux courts et que j'ai cette crête qui soit quand même un truc phallique, tu vois.
Voilà. La métaphore est intéressante. Hein.
Ouais, bah voilà. Et puis après, mon père m'a regardé et m'a dit ah, pas toi.
Tu te cherches, tu te cherches. Ouais, on a le droit de se chercher.
Puis, voilà. Et puis pareil, le piercing sous la lèvre, c'était aussi un mauvais conseil.
Ouais. Donc le conseil que j'en ressors, c'est n'écoutez pas forcément les autres. Écoutez-vous. Parce que toi, est-ce que tu te serais fait le piercing à la langue ou la lèvre?
Bah, en fait, je sais pas si. Enfin, je sais que je l'ai fait déjà et que ça ne m'a pas plu, tu vois, donc voilà. Je sais que je suis allée au bout de ce truc, par contre.
Ouais.
Je me suis dit, si tu fais pas cette crête, Marie, comment tu vas savoir que c'est bien ou pas? Voilà.
No regrets.
Ouais. Voilà.
Est-ce que tu aurais une ressource à nous partager, à recommander aux personnes qui écoutent ce podcast, que ce soit un livre qui t'a marqué? Un film que tu as envie de conseiller, enfin, tu vois, un truc un peu life-changing, lisez ça, regardez.
Et bien justement, attends, faut que je regarde parce que je me souviens jamais du titre.
Vas-y,
je l'ai là.
Vérifie pendant ce temps-là, je vais feuilleter Marinette.
Un livre que j'ai acheté qui est vachement bien, justement, qui parle de tout ce qui est identité et genre, et ça s'appelle « Identité queer et trans », le guide de poche des identités queer et trans. Et en fait, c'est des petits escargots qui t'explique la différence entre binaire, non-binaire. Enfin, vraiment, c'est hyper bien expliqué pour les gens qui ne savent pas. Parce que même moi, il y a des appellations et des. Enfin, je m'éduque sur ces sujets au quotidien. Et c'est vrai que parfois, tu peux être un peu perdu. Tu te dis, attends, c'est. Donc, binaire, c'est ça. Transgenre, tu vois.
Ouais, je suis d'accord.
Transgenre homme. Écriture inclusive, tout ça. Enfin, voilà, toutes ces. Et donc, moi, avec ce livre, j'étais déjà éduquée là-dessus, mais avec ce livre, je trouve que c'est bien pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, tu vois. Par exemple, je pense à des gens de ma famille où, tu vois, je pourrais très bien le faire lire à ma mère, qui est quand même hyper ouverte, et qui peut lire, mais qui ne sait sûrement pas la différence. Eh ben, elle serait ravie de pouvoir apprendre et pouvoir... parce que c'est compliqué quand tu es face à des gens qui se sont attribués à un genre que tu essayes aussi de respecter, et tu as peur de faire des bourdes ou de pas dire le bon pronom, tu vois. Et du coup, ça, justement, ça t'explique et ça te dit, c'est pas grave de pas savoir tout de suite, juste écoute l'autre, laisse-le t'expliquer, respecte
son identité.
Son identité et
apprends au fur et à mesure du chemin. C'est ok de pas tout savoir, c'est vrai. Parfois, on a une culpabilité, mais c'est vrai que c'est complexe aujourd'hui. Donc, super, je mettrai la référence du livre dans notre podcast.
Mais par contre, avec ça, plus d'excuses.
Ouais.
Voilà.
Génial. Un petit cadeau à offrir aux grands-parents à Noël.
Exactement. Putain,
laisse tomber. It's gonna be
fun. Ah bah, non, mais c'est. Franchement...
Voilà, peut-être cibler une personne assez ouverte d'esprit quand même pour en retirer tous les bénéfices.
Ouais, justement, je trouve que c'est pas mal aussi de cibler des gens qui sont pas du tout...
Moi, je suis un peu comme ça, un peu provoque.
Ouais. Tu vois, bah, enfin, voilà, c'est tout. C'est
peut-être qu'à la fin, ce seront les plus convaincus. Hein.
Bah ouais.
Trop cool. J'espère. Écoute, je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie?
Bah moi, c'est prendre le tapis volant.
J'adore parce que j'ai senti vite fait la musique d'ascenseur dans ta tête. Et puis après, l'évidence,
mais en fait,
prendre le tapis volant.
Je suis sur le tapis. Prenez votre tapis volant, quoi. Prenez-le avec et mettez la petite musique d'ascenseur qui fait... Et on sera tous sur les tapis volants comme ça, ce sera super.
Je crois que je penserai à toi à chaque fois que j'entends une musique d'ascenseur maintenant. Ou tu sais, les musiques quand t'attends au téléphone.
Mais c'est exactement ça. Moi, c'est les musiques d'attente. Il y a... Voilà.
Ouais, mais je ne l'appelle plus. Trop cool. Écoute, merci beaucoup Marie pour ce merveilleux
merci
moment.
À toi.
Merci pour ce que tu fais et
à
la
merci
fois
à toi
le
pour
travail.
Ce que tu fais. On n'a pas beaucoup parlé de toi, dis donc, quelle pipelette.
C'était pas le but. Ouais. Mais je trouve ça très cool en fait d'utiliser l'humour pour faire passer des messages forts.
Ouais.
Et voilà, je trouve que tu le fais très bien, que ce soit sur les réseaux, par tes séries et maintenant par ton livre illustré qu'on remonte à l'écran.
Ce qui est important, je pense aussi, c'est des sujets qui sont importants justement, mais que j'essaye de décomplexer avec l'humour. Voilà.
Génial. Et on peut se le procurer en librairie à partir du...
Du 13 octobre.
Elle vérifie.
Ouais, je vérifie.
C'est bien le 13 octobre.
13 octobre, et moi, bien évidemment, je vais t'en envoyer un. Celui-là, c'est le seul exemplaire, donc je le garde.
Non, garde-le.
Comme un trésor.
Oui, tout à fait. Il est très beau, il sent très bon.
Mais c'est trop bien, les livres, non?
Ouais, bah, je prêche, je suis convaincue. Il y en a partout.
Putain, moi, j'adore.
Bon, bah, merci beaucoup, Marie, et j'espère à très vite.
Oui, bisous. T'as vu, j'étais déjà dans la musique d'ascenseur. Oui, par contre, je suis comme les enfants, au bout d'un moment, je me déconcentre, je suis désolée.
Ah, mais il n'y a pas de souci. On veut du vrai. J'ai réussi à le placer 3 fois dans cet épisode, quand même, c'est fort.
Allez, bisous, bisous. Attendez, je vous fais un dernier ASMR. Bisous, bisous. Ciao.
On n'a même pas chanté Anastasia, mais...
Ah. Des images...
Oh, mais putain, tu chantes trop bien, c'est mort, je ne te rejoins pas. Vas-y, elle est trop belle, cette chanson, finie là-dessus.
Non, mais,
si,
avec
vas-y.
Moi. Comme un souvenir tendre,
moi, je suis la tonalité.
Vous vous en rappelez?
Ah ouais.
Une ancienne ritournelle, loin
autrefois,
du foie de décembre.
C'est autrefois, je crois.
Après, elle dit loin du
d'accord,
deuxième.
D'accord, ok, accepté. Merci à tous.
Ciao.
Si vous entendez ce message, si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer @mariepapillon et @mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. C'est aussi en le conseillant autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous permettez au podcast de grandir. Et n'hésitez pas à y laisser quelques lignes nous disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode, mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Cet épisode est déjà fini, mais heureusement, il y en a beaucoup d'autres disponibles sur InPower. Plus de 170 sont déjà sortis et ils sont disponibles directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.